Salut tout le monde, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Norfolk dans l'ancien setup, hein, regardez, c'est l'ancien setup. Ça me tentait pas de tout déplacer dans ma chambre, je sais que l'angle de caméra est pourri, le lighting est pourri, mais c'est pas grave, la carte aussi est pourrie, guys, donc ça fit, on est en business. Ouais, c'est ça. Je suis là pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC Norfolk qui va avoir lieu ce samedi et qui va nous présenter précisément 2 à 3 bons combats max. Le reste, c'est tout du filler. La carte a déjà été popée, mais il y a eu tellement de blessures là, que c'est vraiment, vraiment, vraiment un événement qui ne va qu'exister puis nous donner un bon main event. Parce que oui, le combat de main event est excellent et c'est par ça qu'on va commencer évidemment. C'est un combat de championnat chez les 125 livres. Henry Cejudo qui met cette ceinture-là vacante après l'avoir remporté des mains de Demetrius Johnson. Je pense qu'il a défendu une fois, si je ne me trompe pas, le contre Dillashaw, mais bref, en tout cas. Joseph Benavidez affronte Davison Figueiredo dans ce combat-là et puis, basically, là, on a quelqu'un qui, sur papier, là, en théorie, est vraiment meilleur que l'autre partout. C'est-à-dire, tu sais, Davison Figueiredo, ce qu'il fait, là, c'est avancer pour draw tes shots, puis de là, il te counter très hard. Puis c'est pas le gars qui va être le plus actif dans un combat, bref. C'est pas lui qui va, tu sais, pousser l'action, l'aider, lancer beaucoup de strikes, mais cependant, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il est très opportuniste, sait voir ses opportunités, et n'en manque pas une, tu sais, habituellement, c'est pas... Il y a certains combattants qu'on voit des fois avoir une opportunité, mais pour but de rester défensif, ne va pas sauter sur cette opportunité-là. Si tu laisses une ouverture à Davison Figueiredo, il va te counter, puis il va te counter très hard, c'est... T'sais, là où j'ai un peu de difficulté dans ce combat-là, c'est comme j'ai mentionné, t'sais, Joseph Benavidez va être un meilleur striker que Davison Figueiredo, je crois. Surtout sur le lead, si on y va, t'sais, qui est le meilleur counter-striker des deux. C'est peut-être Figueiredo, il va être plus puissant aussi, mais généralement, quand on parle du combat debout, le gars qui est le plus technique des deux, le gars qui va setter les meilleurs traps des deux, ça va être Benavidez. Même chose au niveau de la lutte. Benavidez est bien meilleur que Figueiredo et un bien, bien, bien meilleur grappler. Figueiredo n'est pas un mauvais grappler, tu sais, loin de là. C'est pas mal un gars qui veut prendre le top s'il en a la chance. Puis de là, il lance du gros ground and pound. Il est bon. C'est un bon gars de top control pour causer du dommage. Il est très athlétique aussi, mais je sais pas s'il a la technique pour constamment gagner les scrambles contre Joseph Benavidez. Et puis, tu sais. Basically, on a quelqu'un qui, selon moi, est plus skilled, peut-être un peu vieilli, donc peut-être a perdu peut-être une petite coche d'athlétisme contre quelqu'un qui va être beaucoup moins technique, mais ô combien puissant, fort et athlétique. T'sais. Les shows que j'écoute de Bloody Elbow, de Preview, ont fait la comparaison entre Davison Figueiredo disant que c'était basically le flyweight Yoel Romero. Puis c'est une très, très belle comparaison. C'est quelqu'un que... Tu sais, il va pas nécessairement pousser l'action, mais très opportuniste, et gros, et fort, et puissant, et a ce qu'il faut pour finir quelqu'un de à pas mal tout moment du combat. Donc, ça va être un excellent combat, un excellent match-up. J'ai Joseph Benavidez par décision. Je pense qu'il est supérieur, comme j'ai dit, à Figueiredo dans pas mal tous les aspects, mais mon Dieu, que ça se pourrait qu'il se fasse juste cote. Et puis, qu'encore une fois, le championnat lui échappe, lui qui est probablement un des meilleurs combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes, à ne jamais avoir gagné un titre. C'est sa chance-là. Ne doit pas laisser filer ça, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Puis Davison Figueiredo est direct le gars que tu peux être en train de battre et puis que, tu sais, un moment ou l'autre va sortir un lapin de son chapeau et gagner ce combat-là par finish. Donc, j'ai Benavidez par décision ici pour remporter ce championnat-là. Ça nous mène au co-main event de la soirée. Oh là 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 là. En plus, je pense que c'est comme même pas... un injury switch-up, ce combat-là. Felicia Spencer est de retour face à Zara Fern. Et tabarnouche, Zara Fern, là, c'est littéralement fait out-grapple par Megan Anderson. La fille qui se fait out-grapple par tout le monde, qu'on disait, mon Dieu, aucun grappling à cette fille-là. Elle va tout perdre les combats contre les gens qui vont essayer de la grapple moindrement. Puis là, elle arrive, puis elle out-grapple Zara Fern. Ça te montre juste à quel point Zara Fern est mauvaise au sol. Et elle affronte Felicia Spencer, qui est littéralement Ben, tu m'en dis une des meilleures grapplers dans la division, mais il n'y a pas de division 145 livres dans l'UFC. Basically, il y a comme deux filles, puis le reste, c'est des glorified 135 livres qui move up une fois de temps en temps. Zara Fern, je pense, c'est une des seules vraies 145 livres. C'est une bonne combattante debout en plus, donc ça a réussi à garder ça debout. Ça peut bien aller pour elle, mais. T'sais, Felicia Spencer est tellement un bull qui va essayer d'amener ça dans le clinch puis d'amener ça au sol de n'importe quelle façon. Et puis on l'a vu contre Megan Anderson, c'est pas grave d'amener le combo au sol. Elle va pull guard, elle va travailler de son dos puis elle est excellente de là aussi. Donc j'ai Felicia Spencer soumission premier round assez facilement ici. Ensuite, 205 livres, Ion Cutelaba affronte Magomed Ankalaev. Puis ça va être très intéressant pour le temps où les deux combattants vont avoir de l'énergie. Parce que Cutelaba, malheureusement, on l'a vu gas out. Mais en fait, il y a deux choses avec Cutelaba qui sont vraiment très importantes et non négligeables. La première d'entre elles, gros cardio issues, rarement dépasser le premier round. On voit un Ion Cutelaba en bonne condition physique. Et peut-être une petite lacune au niveau de la défense des takedowns. Peut se retrouver pris sur son dos. C'est pas juste qu'il défend mal le takedown, mais il y a très peu de réponses une fois sur son dos sur comment se lever, comment améliorer sa position dans cette place-là. C'est pas ce que tu veux là, contre Ankalaev. Ankalaev va être quand même game d'échanger debout contre Cutelaba. Ça risque d'être dangereux parce que Cutelaba c'est un swarmer, c'est quelqu'un qui va vouloir lancer en combinaison avec puissance. Ankalaev lance aussi avec puissance, mais c'est plus un range, one power shot at a time striker. Donc peut-être que Cutelaba peut avoir du succès là, mais peut-être aussi qu'il va se puncher dans le clinch assez rapidement et se retrouver au sol contre quelqu'un qui va être absolument bien meilleur grappler que lui. J'ai Ankalaev par TKO, deuxième round dans ce combat-là. J'aurais dit soumission, mais on n'a jamais vu Ankalaev passer aucune soumission à personne. C'est un bon lutteur, mais le gars préfère vraiment de sacrer des coups de poing d'en face au sol que d'essayer de te soumettre. Donc j'ai un TKO, ground and pound, deuxième round pour Ankalaev. Ça nous mène à un autre esti de combat fuck all chez les 145 les féminins. Megan Anderson affronte Norma Dumont. Elle a 4 pro fights, elle s'est battue seulement qu'à 135 livres dans l'UFC et contre des filles vraiment, vraiment plus petites qu'elle. Là. Des filles qui se battaient à 125, voire même à 115. Là, à la fond de quelqu'un qui a 5 pouces de grandeur sur elle, j'ose même pas imaginer le reach difference. Et puis, tu sais, encore une fois, on voit en Dumont une kickboxer qui est peut-être pas une très très bonne grappler. Donc j'ai comme l'impression que c'est le genre de combat où Megan Anderson va peut-être pouvoir justement réutiliser son grappling qu'on a vu améliorer à son dernier combat. Puis c'est vrai, tu sais, de façon offensive, Megan Anderson n'est pas une mauvaise grappler. C'est quand qu'elle se retrouve défensivement. Désolé, je bois du 7-Up, j'ai des rotes là. Mais c'est défensivement des fois qu'on trouve des lacunes à sa game, qu'on voit que oh, il y a telle affaire qu'elle a de la difficulté, telle autre affaire qu'elle a de la difficulté, puis elle a de la misère à sortir des positions. Mais si elle décide de grappler offensivement, elle est capable de se prendre une bonne position en top control, de laisser aller ses mains, puis d'espérer que son adversaire lui donne le dos. Je pense que ça va être à peu près ça. J'ai Megan Anderson par Rear Naked Choke au deuxième round. Ça nous mène au premier combat de la même card, Grant Dawson. Derek Minner, qui est un short notice, qui est un one-round fighter là, à la base, quelqu'un qui va absolument tout donner ce qu'il y a au premier round, puis ce qu'il y a, ben, c'est au sol. Là. C'est quelqu'un qui va vouloir amener le combat au sol et essayer de travailler là, que ce soit sur son dos ou sur le top, il est assez à l'aise. Le problème, c'est que Grant Dawson aussi, là, c'est sa spécialité, être un grappler, d'après moi, va être plus près que lui, a plus de cardio que lui, c'est pas même facile à avoir plus de cardio, pas même difficile, c'est-à-dire avoir plus de cardio que Minner. Donc, j'ai Dawson soumission au deuxième round. Je pense que le premier round, ça va être à l'avantage de Dawson de prendre ça peut-être un peu plus tranquille, parce que oui, Minner est dangereux au premier round, fait que je niaiserai pas trop avec ça. J'attendrai au deuxième round, puis au deuxième round, va sûrement être capable d'aller chercher une soumission. Surtout que Minner risque d'être assez fatigué, qui va probablement essayer d'aller au sol coûte que coûte, puis si ça marche pas, de se retrouver sur le top va juste donner une très bonne position à Dawson puis le laisser travailler de là. Donc Dawson, soumission, deuxième round. Ça nous mène au prelim. Le main event des prelims, si ça existe encore, c'est un combat chez les 135 livres. Gabriel Silva, le frère d'Eric Silva, affronte Kyler Phillips, qui fait ses débuts dans l'UFC. C'est quelqu'un qui avait été à Ultimate Fighter. Je me rappelle plus trop qui compte qui avait perdu, mais en tout cas, yeah. Pas très important, moi, vous dire, c'est un bon combat, pareil, un bon prospect fight. Je vous dirais que le bottom line ici, c'est probablement que les deux veulent grapple Et puis, ben, ça va être le meilleur grappler qui va gagner. Moi, ma suspicion, ben, c'est que c'est Gabriel Silva, mais je vous dis probablement juste ça, parce que j'ai vu Silva être très, très, très compétitif au sol contre Ray Borg, qui est un excellent grappler. Donc, c'est pas mal ça, l'étendue de mon analyse. Kyler Phillips, ben, tu sais, je l'ai vu Ultimate Fighter, je l'ai vu, j'ai quelques combats de lui avec LFA notamment, mais. Unproven, ça serait le bon mot ici. Je ne l'ai jeté. Dans le fond, j'ai jamais vu Kyler Phillips avoir du succès au sol contre quelqu'un du niveau de Gabriel Silva. Puis j'ai vu Gabriel Silva avoir du succès au sol contre quelqu'un du niveau de Ray Borg, ce qui me fait dire que c'est probablement un très bon grappler. Donc j'ai Gabriel Silva par décision. Ensuite, 185 livres, Brandon Allen. Tom Breeze. Puis ça, c'est un combat intéressant. Là. Quand je dis il y a 2 à 3 bons combats, peut-être 4 bons combats sur cette carte-là, ça, c'en est un. Et puis, ben, c'est parce que ça va être, tu sais, un match-up qui est étrange dans la façon dont les styles vont jouer un contre l'autre. Parce qu'on a Tom Breeze qui est très bon, tu sais. Il est vraiment un bon striker, un bon grappler. Lutte très bien aussi. Fait quand même tout bien. On n'est pas excellent dans rien cependant. Et je vous dirais, ce n'est peut-être pas le combattant le plus dangereux quand il est debout. Il travaille son range game. Fait peut-être un peu passer à Rory McDonald derrière son jab. Quand il est au sol, va y aller, tu sais. Position-wise. C'est quelqu'un qui, si tu le forces à grappler, il peut t'out-grapple. Il out-grapple Keita Nakamura. Puis c'est sûr qu'il était vraiment, vraiment plus gros que Keita, mais n'empêche que c'est un très bon grappler là, ici qui est venu out-grapple. Puis on a Brandon Allen d'un autre côté qui, oh mon Dieu, est unstructured là, sa game, mais c'est tellement un grand et long middleweight. Il n'y a aucune idée. Aucune idée comment se battre à range. C'est quelqu'un qui veut crush la pocket, clincher avec toi, et puis espérer se retrouver dans des échanges de grappling ou à scramble. Il est absolument redoutable avec ses front headlock choke, que ce soit la guillotine, le Darce, l'anaconda, toutes ces choses-là. Donc, oui, ça va être quelque chose à surveiller pour Tom Breeze, mais le fait que Brandon Allen est si grand et si long que ça, et incapable de se battre à range, ben ça me laisse croire que, tu sais, probablement que ce combat-là va se jouer dans le style de Tom Breeze, sur qui c'est pas tant facile que ça, là, couper le range. Puis si tu coupes le range, tu te retrouves dans un bon clinch, là, t'sais, d'un bon clinch fighter qui est capable d'aller chercher ses takedowns. Puis on a, je vous dirais, Allen qui est peut-être un peu submission over position, dans le sens que c'est un fighter qui est wild, qui va essayer de rendre ça ugly, va essayer de rendre ça un scrap, puis essayer d'attraper une position à quelque part, dans une soumission, c'est-à-dire à quelque part dans un scramble. Contrairement à Tom Breeze, qui va essayer de garder ça intelligent, garder ça stratégique et garder ça très positionnel. Quand il va être debout, va vouloir être at range, travailler derrière son jab. Quand il va être dans le clinch, va vouloir travailler ses amener au sol. Quand il va être au sol, il ne va pas s'exciter pour scramble tant que ça avec Allen, va essayer de garder sa position, s'écraser. Là, puis là, un coup qui va être confortable dans sa position va travailler soit pour l'avancer ou pour l'ender du dommage, l'ender du ground and pound. Donc, j'ai pas choisi d'aller avec Breeze, si combattant vraiment plus intelligent, plus stratégique qu'un Brandon Allen qui, tu sais, qui est skills, qui fait des belles choses, mais que c'est un gars qui veut justement va essayer de crasher le range de Tom Breeze. Puis je pense juste pas que ça va si bien aller que ça pour lui. Donc j'ai Breeze par décision. Ça nous mène au combat de poids lourd. Marcin Tybura, Sergei Spivak. Puis c'est pas compliqué l'analyse ici. Si Marcin Tybura est vraiment autant fini qu'il en a l'air, va peut-être perdre, mais va sûrement gagner. Parce que Sergei Spivak est pas bon. Pas bon, pis. Tu sais, oui, il s'est retrouvé comme dans le ranking, on ne sait trop comment. Ben, en fait, c'est en battant Tite Uivasa qui, lui, on ne sait trop comment s'est retrouvé dans le ranking. L'affaire, c'est que Tite Uivasa est encore moins bon, probablement, que Sergei Spivak, et est quelqu'un qui, cet échange de bout avec lui, va donner des bons combats, va être intéressant, va peut-être même gagner, même si c'est pas le plus technique des strikers. Mais si tu le grapples moindrement, le gars est horrible au sol, n'a aucune idée de comment se relever. Puis Spivak, ben, s'est servi de ça pour justement l'out-grapple. Je pense pas qu'il va out-grapple Marcin Tybura. Je pense même qu'il est un moins bon grappler que Marcin Tybura. Donc il reste le combat debout pour lui faire mal. Ça a pas l'air d'être un heavyweight avec tant de power que ça. Donc j'ai tendance à être confiant pour Tybura ici. Je vais y aller avec Marcin soumission round 2 parce que je pense que Spivak va se rendre. Désolé, va se rendre compte qu'il va devoir grappler dans ce combat-là. Puis une fois au sol, va se rendre compte qu'il n'est juste pas le meilleur grappler des deux. Ensuite, Un combat intéressant, mais pour des raisons bizarres aussi. J'ai les 155 Louis, 155 livres. Luis Peña, Violent Bob Ross, affronte Steve Garcia, qui est absolument un 145 livres, mais un 145 livres de 6 pieds. Bizarre, 145 livres de 6 pieds, il est quand même gros pour un, tu sais, ça va faire de l'allure à 155 livres. Il affronte quand même Violent Bob Ross ici, qui est genre 6 pieds 3, là, quelque chose comme ça, qui a absolument pas rapport pour cette division-là. Puis oui, il est grand, puis il est mince, mais le problème, là, avec Violent Bob Ross, c'est qu'il est incapable de pousser l'action. Incapable, incapable, incapable. Il fait tellement des belles choses, tu sais, individuellement, debout, tu sais, quand il travaille derrière son jab, l'aine du volume, c'est quelque chose d'assez beau, il travaille, il est fluide, cependant, il n'a vraiment aucune lutte, là. Puis c'est con, parce que je pense que c'est comme un lutteur, Violent Bob Ross, à la base, puis offensivement, lutte bien, défensivement, ne lutte pas. Il ne lutte pas, ne défend pas les takedowns. Puis c'est sûr que il est fait sur le long, puis il est bizarre au sol. Puis il est capable de rendre les combats serrés, mais il est capable de ne pas les gagner aussi. Puis souvent, je regarde Violent Bob Ross, puis je regarde ses skills, puis ce qu'il est capable de faire dans la cage. Je me dis, si tu étais capable de tout mettre ça ensemble, tu battrais facilement ton adversaire. But somehow, le gars réussit à se retrouver dans des mauvaises positions, de se retrouver à side control en dessous, puis aller chercher un genre de weird tie-up où son adversaire peut rien faire, mais que ça fait que les deux sont pris là, puis il passe quand même 2 minutes sur son dos, en side control, en dessous, à rien faire, à part empêcher son adversaire de lander du dommage, et puis. Tu sais, on a dans ce combat-là, en Steve Garcia, juste quelqu'un qui va aller de l'avant et qui va essayer de boxer son adversaire. Puis je pense pas qu'il va avoir l'avantage au sol. Je pense même qu'il va être un peu susceptible à se faire takedown par Violent Bob Ross et puis qui, d'un autre côté, ne va pas être nécessairement le gars qui va menacer Violent Bob Ross avec des takedowns. Mais je pense que, tu sais, Violent Bob Ross est probablement le gars de 6 pieds 3 qui se bat le moins bien à range. Ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais la comparaison avec Luke Rockhold est vraiment là. On a quelqu'un qui a du bon jujitsu, qui est bon au sol, qui est peut-être un peu trop willing de se battre au sol dans des positions qui ne l'avantagent pas, puis qui, debout, devrait être un excellent range striker, mais somehow ne l'est pas. Puis il est capable de montrer des vraiment beaux flashs debout que tu dis, ah, tu sais, il a une belle technique, lui, mais n'est pas capable de transférer cette technique-là en quelque chose d'efficace dans l'UFC. Donc, je pense que Luis Peña est meilleur. Je pense qu'il est plus gros. Je pense qu'il y a le short notice qui va jouer en sa faveur. Mais on dirait que je peux pas me fier sur lui. Surtout contre un gars qui va y aller pendant 15 minutes, qui va aller de l'avant, qui va essayer de mettre des mains sur lui, de briser le range, puis de rendre ça vraiment inconfortable. Ça, c'est Steve Garcia. Et ben, je l'ai par décision aussi. Garcia, par décision, ça nous mène à un autre combat. Chez les 145 livres, Jordan Griffin face à TJ Brown. Puis dans le fond, on a Jordan Griffin qui est pas bon, puis qui semble ne pas être en mesure de rien gagner dans l'UFC, mais qui est quand même très athlétique. Et qui affronte TJ Brown, ben, qui est pas bon, qui a jamais gagné dans l'UFC parce que c'est son premier combat, mais qui arrive avec une fiche de 14-6 qui est probablement pire que la fiche de Jordan Griffin. Puis le problème avec Brown, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un de moindrement plus athlétique que lui, ben il perd. Puis Jordan Griffin est plus athlétique que lui, donc j'ai aucune confiance en Jordan Griffin, mais je vais quand même y aller avec Jordan Griffin. Ensuite, 145 livres, un autre short notice, Aylon Cruz affronte Spike Carlisle. Yeah. Oh mon dieu, Spike Carlisle, il est pas prêt. Il est juste vraiment pas prêt d'être dans l'UFC. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment, 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 vraiment dépendant sur sa lutte. Va vouloir amener le combat dans la cage. Puis tu sais, pogne un single leg de là, puis essaie de le finir. Puis c'est même pas un bon chain wrestler, vraiment. C'est pas quelqu'un qui va pogner le single, puis là, on va switch au double, va revenir un single, va essayer un trip. Non, c'est un gars qui s'accroche à un single leg, puis tu sais, et quand tu penses au genre de gars qui est très propice là, de se retrouver contre la cage, pliant en deux sur un single leg, en train de manger des Travis Brown elbow, ben ça, c'est Spike Carlisle. Puis contre Aylon Cruz, ben je vous dis pas qu'il va avoir, qu'il y aura pas beaucoup de clinch dans ce combat-là. Je pense qu'il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clinch. Mais je pense que ça va être à 50-50 dans le clinch. Cruz défend quand même bien les takedowns. Puis at range va avoir un gros avantage. C'est quelqu'un qui ne lance pas vraiment en combinaison. A tendance un peu à lancer one power shot at a time. Mais tu sais, ça va être contre quelqu'un qui a littéralement pas de combat debout. Donc j'ai Aylon Cruz par décision aussi. Je serais même pas surpris qu'il réussisse. C'est aller chercher un autre highlight reel finish comme il a fait au Contender Series. Mais Carlisle a l'air assez tough. Il est gros. Donc je vais aller par décision aussi. Mais je pense que Cruz, avec son offense debout, va avoir les meilleurs moments et va gagner ce combat-là. Il en reste rien qu'un. Et c'est absolument incompréhensible qu'il se retrouve là parce que, tu sais, selon moi, là, c'est pas mal, là. Troisième meilleur combat de la carte. Je serais quasiment à game de dire deuxième meilleur, mais, tu sais, Kutelaba et Ankalaev sont des gars qui sont comme pas loin du top 15 puis qui pourraient, tu sais, dans le cas d'Ankalaev, je pense être dans le top 15, voire même plus haut que ça dans cette division-là. C'est pas encore le cas. Avec Sean Brady et Ismaël Nordiev, mais ça va être un très 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 bon combat de striker. Ça va échanger debout. Ça va être le fun. Et puis écoutez, Nordiev, j'ai encore de la misère avec lui un peu à le sizer parce que tu sais, il arrive dans son premier combat contre Michel Pereira, défend toutes les takedowns, défend les amener au sol, défend le grappling, allume Pereira complètement. Prazeres, c'est-à-dire Michel Prazeres, allume Prazeres complètement là, debout, là, complètement, puis là, le domine aisément. Deuxième combat, affronte Chance Rencounter, ou Chance Rencontre, là, comme j'aime l'appeler, mais. Arrive là, père, se fait out-wrestle, mais tu sais, out-wrestle, comme quelqu'un qu'on dirait qu'il n'a jamais fait de grappling de sa vie, puis là, t'es des coudons, il était tellement bon avec son grappling au premier combat, puis il a réussi à bien mixer ça avec son, t'sais, son striking, son range game, son jab, toutes ces choses qui sont vraiment beaux debout. Et puis donc, out the window, complètement disparu, puis là, il arrive à son deuxième, troisième combat, c'est-à-dire contre Sillard, Barduzada, et puis, ben, tu sais. Fait un peu la même affaire qu'à son premier combat. Utilise moins de grappling parce qu'évidemment c'est Sillard. Puis Sillard aime pas mal plus être à range, te soigner des gros overhands qu'essayer de te grappler. Donc il y a moins de grappling dans ce combat-là. Mais je sais pas quoi m'attendre. T'sais. Michel Prazeres, selon moi, va pas mal toujours rester un meilleur grappler. Un grappler plus dangereux que Chance Rencounter. Donc je m'explique vraiment mal cette défaite-là. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour ce combat-là. Là. Bien franchement, je pense pas que Sean Brady est vraiment le gars qui va amener des takedowns. Là, parce que je pense que ça serait tout à son avantage. Si Brady est capable d'avoir, je te dirais, du succès là, 50-50 debout et de lander des takedowns, c'est lui qui va gagner ce combat-là. Cependant, j'ai vu dans deux combats sur trois, je tiens à le préciser, Nordiev assez bien défendre les takedowns. Puis tu sais, on s'entend que Brady est vraiment plus un striker. Là. Un partenaire d'entraînement quand il est à Philadelphie de Paul Felder. C'est un striker, c'est un bon striker. C'est quelqu'un qui fait bien les choses, mais Nordiev est vraiment bon à range avec son jab, kick bien aussi. C'est un beau striker, c'est bien éduqué en striking, qui lance de belles techniques, qui travaille très bien. Donc j'ai tendance à favoriser Nordiev debout et j'ai pas confiance que Brady va être en mesure de lander des takedowns pour changer ce combat-là. Donc, ben, je vais y aller avec Nordiev par décision. Puis c'est ça qu'il faut conclure mes analyses et prédictions pour la carte de l'UFC Norfolk qui va définitivement arriver à quelque part samedi. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part de vos commentaires. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Visitez le MMAtalk.ca. Et puis, ben, c'est ça. On se parle une prochaine fois, les petits amis.